plus loin dans cette soif de sainteté. C'est bien ce que nous recommande Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce désir de sainteté. On ne l'a pas assez parce qu'on n'est pas assez profondément chrétien. Au Dieu trois fois saint que nous sommes liés par le baptême, par Jésus, par notre Sauveur qui nous conduit au Père, qui nous unit au Verbe, qui nous met dans la docilité plénière à l'Esprit Saint. Vivre profondément le mystère d'unité avec Dieu. On y tend, c'est bien évident, le désir qui doit s'emparer de notre cœur pour ne pas nous arrêter. Profitons de cette journée. Après la conférence, il y aura encore exposition du Saint-Sacrement, pas toute la nuit, parce que à cause des lieux divers où vous êtes, c'est pas très commode, au moins jusque minuit. Et puis il y aura des prêtres qui seront à la disposition de ceux qui désirent se confesser. Vous savez bien, c'est bon pendant une retraite de se confesser, surtout qu'aujourd'hui, c'est pas toujours très commode. Ceux et celles qui désirent, même pendant la journée, il y a toujours ici des prêtres à votre disposition. Je le suis, mais je sais que c'est pas toujours commode de m'atteindre immédiatement. Alors, et puis c'est bon qu'il y ait une très grande liberté dans le sacrement de confession. Nous allons continuer ce matin à entrer dans ce que la petite Thérèse nous dit sur cette nouvelle voie. Ça fait assez impressionnant qu'elle dise ça avec tant de netteté. C'est le point de départ, on peut dire, du renouveau dans l'Église. Elle l'a dit d'une façon très discrète. Marthe l'a vécu d'une façon plus visible et le Saint-Père le proclame dans le côté d'amour. Et je crois que c'est bien cela, cette nouvelle voie. C'est la voie d'amour qui conduit à la consécration, qui implique cette consécration. De tout nous-mêmes à l'amour miséricordieux. C'est très beau et c'est très vrai de dire la voie de l'amour. L'amour termine, achève tout et elle dit voie. La voie, ce sont les moyens. C'est la route, c'est le comment. Comment être saint. Pour ça, nous avons besoin d'une voie. Et cette voie, c'est Jésus. Et alors, elle le comprend de façon très très forte, puisque Jésus est amour. Le Père nous donne son Fils et nous donne à la croix. Et à la croix, Jésus. Voix, vérité, vie. Et Thérèse l'a compris d'une manière très réaliste. De voir que ce qui est le terme ultime de toute sa vie, c'est d'aimer. D'aimer en étant entièrement donné, en se dépassant, en étant toute relative à Jésus et au Père. Il considère que cet amour, qui est à la fois le premier amour et le dernier amour, est toujours présent dans tous les moments. C'est là on voit combien pour elle cet amour divin, c'est ce qu'il y a de plus concret. Devant toujours nous, une peine énorme à comprendre que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus concret. Que la contemplation, c'est ce qu'il y a de plus concret, la contemplation mystique, la contemplation chrétienne. Et nous séparons tout le temps le concret quotidien et puis l'amour. Il n'est pas juste. Là, c'est une vision philosophique et pas chrétienne. Le philosophe distingue l'aspect spéculatif et l'aspect pratique. Et Jésus nous est donné pour être notre amour et être notre voix. C'est cela, je crois, que Thérèse nous montre quand elle dit cette nouvelle voix. Parce qu'elle a très bien vu qu'à partir du XVIe siècle, il y avait comme une séparation. Parce qu'on ramenait le point de vue chrétien à une pratique morale. C'est vrai. Le XVIIe siècle a très affirmé cela. Et alors, à partir de ce moment-là, on vivait, on essayait de vivre le point de vue des vertus et de la perfection. Et on ne vivait plus suffisamment le mystère des vertus théologales. Parce que le problème des vertus théologales, c'est justement de dépasser le point de vue moral et d'être dans ce réalisme de l'amour. Et je crois que c'est ça qu'on doit demander à la tête Thérèse. On doit lui demander de vivre de ce réalisme de l'amour et de dépasser cet aspect dialectique d'opposition qui est très inscrit en nous. Que la vie contemplative, on dit elle est réservée à quelques-uns, aux carmélites derrière le rire. C'est pas ça du tout. La vie contemplative, c'est le plus grand réalisme de notre vie chrétienne et qui fait que tout peut être transformé par cet amour. Je crois que nous devons demander cela, ce réalisme très grand de la foi. La foi n'implique aucune abstraction. Mais hélas, nous vivons la foi très souvent d'une manière abstraite. C'est nous qui faisons ça. Alors que la foi nous fait adhérer à Jésus, à une personne, dans le réalisme de l'amour, et dans le réalisme d'un amour d'amitié réciproque. Jésus demeure en nous et demeure en lui. Maître, où demeures-tu ? La première interrogation de Saint Jean à Jésus. Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez. C'est l'expérience. Et c'est une expérience divine de comprendre ce qu'est le cœur du Christ. Et cette expérience divine nous permet à la fois de nous élever jusqu'au terme, jusqu'à la vision béatifique. Nous anticipons ce mystère sur la terre par notre vie contemplative, par notre soif de contemplation. En même temps, ceci éclaire tout. À chaque instant, ce que Dieu réclame de nous. Et les moindres détails de notre vie, tout doit être assumé. Tout ce conditionnement humain donné par notre corps, tout ce conditionnement humain qui est si complexe dans notre monde d'aujourd'hui, parce que l'imaginaire s'est beaucoup développé par le cinéma, par la télévision. On est dans une culture où l'imaginaire tend à tout prendre. Et la technique au service de l'imaginaire va nous mettre de plus en plus dans cet imaginaire. L'imaginaire n'est pas concret. Et celui qui vit dans l'imaginaire et dans la dialectique ne vit pas dans le concret. Il a divisé sa vie en deux. Alors il ne sait plus où il est. C'est l'amour de Dieu qui refait cette unité. Mais comprenons bien, quand je dis, et il faut le dire, la petite Thérèse le dit aussi, cette voie d'amour implique l'abandon. Oui, cette voie d'amour implique l'abandon. Cette voie d'amour implique l'adoration. Elle implique des luttes, des efforts. Une prise de conscience de plus en plus nette de notre fragilité, de nos faiblesses. Elle implique de plus en plus des initiatives qui viennent de nous. Ce n'est pas du tout l'abandon qui consiste à dire « va comme je te pousse, puis ça y est ». Ce n'est pas ça l'obéissance. L'obéissance de cette petite voix d'amour et une obéissance toute transformée par l'amour, implique notre engagement total. Mais quand nous divisons, et nous le faisons fatalement parce que nous gardons un mode humain pour penser, quand nous séparons ou divisons l'abandon et le désir, l'abandon et les initiatives, c'est pas juste quand il s'agit d'abandon divin. L'abandon divin doit augmenter nos désirs, doit augmenter nos initiatives, doit augmenter notre responsabilité. Mais c'est à l'intérieur de l'abandon. Ce n'est pas extérieur l'abandon, c'est à l'intérieur de l'abandon que nous devons comprendre ce qu'on appelait au début du siècle notre devoir d'État. Aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Toi, en parler, c'est évident, nous avons tous un devoir d'État à accomplir. Nous avons tous une tâche à réaliser. Parce que nous sommes des serviteurs. Et tant qu'on reste sur la terre, on reste des serviteurs. Et c'est Jésus qui dit, vous êtes mes amis. Et ça, c'est merveilleux, c'est l'ami qui s'abandonne. Quand on est avec un ami qu'on aime beaucoup, on se laisse conduire. Toi, tu connais, allez, conduis-moi. On se laisse conduire. Mais ce qui n'empêche absolument pas, tout d'un coup, de dire, ah tiens, on pourrait faire ça. Initiative. D'exprimer nos désirs. C'est ça qui est merveilleux chez la petite Sainte Thérèse. C'est de voir cette unité que Dieu a réalisée en elle. Ou, à travers la lutte, à travers la souffrance. Mais c'est l'amour. C'est l'amour qui fait l'unité. Notre amour au cœur du Christ. Notre lien avec le cœur du Christ. Et qui nous donne ce regard extrêmement lucide, extrêmement clair, limpide, sur tout nous-mêmes. Sur toute notre complexité. Et sur ces tendances qui sont en nous, conséquences du péché originel, qui sont quasi naturelles, puisque nous sommes nés dans le péché, il reste ses conséquences. Et cet amour qui vient de Dieu, qui est un amour miséricordieux, qui vient de la sagesse de la croix, nous donne ce regard très pénétrant sur nous-mêmes, se connaître, Catherine de Sienne le dit avec force. Et là, Thérèse, elle aussi, elle se connaît, Thérèse. Elle sait sa fragilité. Elle sait que jusqu'au bout, il y aura des petits mouvements de réclamation. Et dès qu'elle en a pris conscience, non Seigneur, tout est pour vous. Et on voit bien cela. Elle n'a pas un caractère si commode. On l'a représentée comme si elle était sans péché, sans aucune lutte, presque comme si elle était immaculée. Non, elle ne l'est pas. Et elle le sait. Et elle sait sa fragilité. Et que si la grâce de Dieu n'était pas là, elle serait la plus lamentable de toutes. Alors, pour creuser un peu plus, je reprends ce texte. Toujours histoire d'une âme. Parce que c'est tellement fort. À l'oraison, mes désirs me faisaient souffrir un véritable martyr. J'ouvrais les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'ai lu dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. Que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire. Mais ne comblez pas mes désirs. Mais elle est tellement abandonnée que ses désirs deviennent des désirs fous. Elle ne comblait pas mes désirs. Elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait. C'est très beau de comparer l'oraison à Madeleine, hein, auprès du tombeau. Ça fait de temps en temps que nos oraisons sont comme ça. On cherche, on ne trouve pas. Quelquefois, le démon nous agite. C'est beau, c'est très grand, voir ce désir insatiable. Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait. Ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je pus atteindre mon but. Vous voyez, les deux se tiennent. Le néant et le terme, grâce à l'amour. Sans me décourager, je continuais ma lecture. Et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits. Et je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Saint Paul qui nous dit ça. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. C'est la foi, et c'est le terme, et c'est le point de départ. Et la charité, et tout ça. Et c'est pour ça que quand s'y donne tellement, totalement, oui, on est porté par cette charité qui, ici sur terre, est vécue dans le grand élan de l'espérance. Et dans la petitesse de la foi. Puisque sur la terre, on ne réalise rien. La foi est toujours là pour nous faire comprendre qu'on ne voit rien. Mais
la soif l'emporte, le désir, le cri de soif du Christ. Même Jésus, vous voyez, nous fait comprendre que sur la terre, il faut toujours dépasser ce qui est fait, ce qui est réalisé. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de repos. Et il y a toujours le repos. Il n'y a pas de repos puisque rien ne nous satisfait. On ne peut jamais s'arrêter. Et ce désir est un martyr. Parce qu'il nous oblige de ne pas nous arrêter. Et de toujours être attiré par Jésus. Quand je serai sur le bois, j'attirerai tout à moi. Toutes nos oraisons doivent être cette attraction. Et c'est l'attraction du Père. Enfin, j'avais trouvé le repos. Et un repos qui n'est pas le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je n'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul. Ça, c'est merveilleux. Ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. Magnanimité divine de la petite Thérèse. La petite voix, c'est la voix royale. Puisqu'elle ne se reconnaît en aucun en particulier et qu'elle désire être tous. Donc c'est vraiment la voix royale. Puisque c'est ça. Royal, c'est magnanime. Royal, c'est au-dessus des parties. Royal, c'est tout. Je veux tout. Et c'est sa voix. Comme c'est difficile à exprimer, parce que chaque fois qu'on l'exprime, on dit quelque chose de partiel. Le Christ me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur. Et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église. Que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Église, n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations. Que l'amour était tout. Il embrasait tous les temps et tous les lieux. En un mot, il est éternel. Donc il fut le passage de la terre au ciel. Et que par l'amour, je vis déjà du ciel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, ô Jésus mon amour, ô Jésus ma vocation. Enfin, je l'ai trouvé. Ma vocation, c'est l'amour. Ce qui donne le sens et la signification à tous mes actes chrétiens, à tous mes actes humains, qui est capable de tout transformer et de faire que ce qui est la fin est présent à tout ce que je fais, sans rien supprimer. C'est qu'en somme, que c'est l'amour qui donne le réalisme à tout ce que je fais, qui supprime toute abstraction et qui me fait vivre directement en présence de Jésus. C'est ça, cette découverte qui est l'expérience du cœur blessé de l'agneau, par où Jésus nous est totalement donné. C'est ça qui fait comprendre ce que vous disiez l'autre jour en vous rappelant ce petit texte d'elle, elle aurait voulu que Jésus, qui est dans l'Eucharistie, demeure toujours en elle, sous cette modalité. Pourquoi sous cette modalité? À cause de la certitude que la foi me donne, que Jésus est présent. Il est présent en moi. Et je sais étant présent en moi, la présence eucharistique est ordonnée à cette présence qui est en moi. Et que cette présence qui est en moi est plus grande, divinement, mais dans la fragilité. Dans la fragilité. Si Jésus est toujours présent dans l'Eucharistie, sauf dans les espèces du pain et du vin, sauf gros but. Ce qui est très douloureux. Ça m'est arrivé l'autre jour, et c'est assez poignant comme souffrance. Je disais la messe dans une petite église. On disait très rarement la messe. Tous les mois, je crois. Il y avait plusieurs personnes. On m'a dit, il y a des hosties dans le tabernacle. Pas la peine d'en consacrer. C'était la brave dame qui tenait l'église, qui avait la clé. Pas la clé dans le sens avec Jésus-Christ, mais la clé de l'église. Elle me dit, mais je vais quand même regarder. C'est tellement gênant, des gens qui désirent communier, et surtout qui avaient la messe rarement. J'ouvre le calice, je ne vois que de la mousse. Des assiettes corrompues. Vous ne pouvez pas donner ça en communion. Voyez la fragilité dans laquelle Jésus se donne à nous. Le prêtre est gardien de l'hostie. Il est gardien de l'hostie. Il doit empêcher cela. Il n'a pas le droit de laisser l'Eucharistie aller jusqu'à la corruption des espèces, où Jésus n'est plus présent. Alors ça fait comprendre que Jésus présent en nous, au plus intime de nous, pas de distance entre le Christ et nous, mystiquement, divinement, dans la foi, mais nous aussi, on peut faire que notre bonne volonté se corrompt. Il est présent grâce à notre bonne volonté, grâce à notre foi et dans notre foi. Mais si notre bonne volonté se laisse moisir, il ne peut plus être présent. Alors on comprend très bien cette petite Thérèse qui avait tellement soif de la présence de Jésus et qui, de fait, sait sa fragilité, connaît ses distractions, ou qu'il reste là tout le temps, comme il est dans l'Eucharistie. C'est le désir profond de son cœur qu'on le retrouve ici, du reste, d'une autre manière. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je vais trouver ma vocation, c'est l'amour. Mais l'amour exige cette attention permanente, constante, de chaque instant. Puisque nous ne sommes pas dans l'éternité, c'est donc la succession des instants qui nous permet de vivre de cette vocation d'amour et d'être de plus en plus présent à ce don que le Père nous fait de son Fils. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Dans le cœur de ma mère, je serai l'amour. C'est l'Église de Marie, comme nous verrons demain. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Alors voyez, le tout ici n'est pas du tout le tout de la philosophie hégélienne. La synthèse n'est pas ça du tout. Et c'est merveilleux de mettre les deux en parallèle. en opposition et de voir le réalisme de l'amour qui est tout. C'est-à-dire que l'amour peut être présent et doit être présent partout. Vous voyez, quand les théologiens disent que la charité doit être la forme de toutes les vertus, ben ils disent ça, mais dans un langage. Que souvent nous comprenons mal. Qui est le langage des théologiens. Sainte Thérèse prend ce langage très simple. L'amour est présent à tout. Et doit être présent à tout. Et c'est par là que Jésus prend possession de toute notre vie, de tout nous-mêmes. C'est toujours l'amour. Quand la lutte est très forte, quand la tristesse est très forte, quand la souffrance est très forte, il faut que l'amour soit victorieux. Parce que le démon se sert de la tristesse, se sert de l'angoisse et de la souffrance. Au niveau où cette tristesse et ces souffrances sont présentes dans notre psychisme humain, dans notre imaginaire humain, dans notre sensibilité humaine. Et le démon voudrait que cette souffrance, que cette tristesse arrête l'amour. Soit comme un mur qui arrête l'amour. Qui nous empêche d'aller plus loin. Et alors, de nous replier sur nous-mêmes et de rester replié sur soi-même. C'est toujours le grand danger de toute tristesse, de toute souffrance. Parce que ça arrête l'élan de notre cœur. Et c'est là où il faut comprendre la victoire du Christ au plus intime de notre cœur. La victoire de l'Esprit Saint au plus intime de notre cœur. C'est de faire que même la tristesse et les tristesses les plus profondes de l'agonie, même les souffrances les plus aiguës, tout peut être transformé par l'amour. Et je crois que c'est ce que Thérèse nous montre. Alors on comprend comment l'amour est la voie, puisque c'est par l'amour que tout se transforme. Et que tout prend un sens divin. L'amour du cœur du Christ. L'amour qui nous vient de Dieu. L'amour humain ne peut pas être victorieux de cela. C'est toute la différence entre l'amour divin et l'amour humain. L'amour humain a un mode intentionnel. Qui lutte, c'est sûr, il lutte. Contre la tristesse. Contre la souffrance. Et l'amour humain, quand il prend ce mode d'amour d'amitié, il est beaucoup plus fort, puisqu'on est deux à lutter. Mais il n'est pas substantiel. Tandis que l'amour divin est substantiel et peut être victorieux, tout cela. Et c'est cela que Thérèse a saisi avec une telle acuité. Pourquoi parler d'une joie délirante? Non, cette expression n'est pas juste. C'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. On n'est pas encore au port, c'est pour ça que la joie n'est pas délirante. Et cependant, hein, elle l'a écrit en premier lieu. Donc, c'est la paix et c'est la joie délirante, dans la paix. Délirante parce que c'est une joie excessive qui prend tout. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Et tout est là, dit avec une très grande netteté. C'est un total abandon dans l'amour. Et c'est une audace, le désir en audacieux. Il n'y a pas d'audace sans désir. Une audace prodigieuse. L'audace d'un enfant. Si vous ne devenez comme des tout petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous devenez comme des tout petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et elle veut entrer tout de suite dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a cette audace. Et elle y entre. Sans y être. Sans être au port. Mais il y a cette audace divine de l'espérance, de l'enfant. Parce que ce qui caractérise l'enfant, vous voyez, c'est que ses désirs sont toujours plus grands que l'expérience qu'il a fait, que son vécu. Ce qui caractérise l'homme qui demeure toujours dans la prudence, c'est que ses audaces sont mesurées à son vécu. Le propre de l'enfant, c'est que ses audaces dépassent le vécu. Ce qui caractérise le vieillard, c'est qu'il juge tout en fonction du passé. Il se réfère toujours au passé. Ce qui caractérise l'audace du tout petit, c'est qu'il est toujours au-delà de ce qu'il a vécu et qu'il attend plus. Demain, demain. Et pour elle, le demain, c'est la venue du Christ. C'est Jésus qui vient. C'est ça son demain. Je ne suis qu'une enfant. Vous voyez, alors, quand on dit la voix, la petite voix, c'est parce qu'elle dit toujours « je ne suis qu'une enfant ». Alors ceci, c'est la voix caractérisée, j'allais dire, par celle qui la vit. Quand elle dit « voix d'amour », elle montre la signification de cette voix. C'est la voix qui tend vers le terme. Et le terme est présent dans cette voix. C'est la voix d'amour. Et c'est ça qui caractérise la voix, cette petite voix. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse. C'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Et l'amour m'a choisi pour l'Holocauste. Moi, faible et créature imparfaite. Saint Augustin dit que des quantités de chrétiens vivent de l'Ancien Testament. Petite Thérèse fait comprendre à Saint Augustin pourquoi. C'est parce qu'on cherche la perfection et non pas l'amour. Ce vieux reste d'orgueil, ce vieux reste d'exaltation de soi, il faut la chercher, il faut chercher d'acquérir la vertu, c'est bien évident. Mais il faut toujours dépasser. Il faut chercher d'acquérir la vertu, surtout pour les autres, vous voyez. Pas pour Dieu, mais pour les autres. C'est la charité fraternelle. Parce que si on est d'une impatience, si chaque fois qu'on n'a pas ce qu'on désire, on est de mauvaise humeur. Vous voyez, oh, très bien, c'est la charité fraternelle qui réclame ça. Tu vois, elle le sait très bien. Et pour Dieu, peu importe. Dieu nous aime tel qu'on est. Avec ce réalisme de l'amour. Oui. Alors, l'amour m'a choisi pour Holocauste, moi, faible et imparfaite créature, ce choix n'est-il pas digne de l'amour ? Ce choix n'est-il pas digne de l'amour ? Interrogation magnifique. Si on réfléchit sur ce qui commande dans cette petite voie, dans cette voie d'amour, ce regard si réaliste de la petite Thérèse par rapport à ce qu'elle est, et par rapport à son désir fou d'être tout dans l'Église, apôtre, docteur, martyr, tout. Et comment tous les charismes sont résorbés dans l'amour, ce qui est juste du reste. Elle les veut tous, parce qu'elle veut vivre pleinement, pleinement de l'amour. Comment se fait cela ? C'est le mystère de la pauvreté évangélique. La première béatitude. Elle a compris que l'Esprit Saint était le Père des pauvres. C'est la pauvreté qui permet de faire que l'abandon soit lié à tous les désirs. C'est la pauvreté qui permet de faire que la voie de l'amour soit à la fois voie et touche le terme, la fin. Cette pauvreté évangélique qui est le dépouillement total de tous nos droits pour pouvoir recevoir Jésus lui-même, pour vivre uniquement en mendiant. Si on reconnaît sa faiblesse, sa fragilité, sa petitesse, sa pauvreté, on n'a aucun droit. Et tout est donné gratuitement. C'est cette gratuité vécue dans cette voie d'amour qui, je crois, montre la qualité particulière du cœur de Thérèse en présence de Jésus. Elle vit l'amour gratuitement, parce qu'elle l'en vit profondément et dans une totale pauvreté. Il n'y a que les pauvres qui vivent de la gratuité dans l'amour. Et l'amour réclame la gratuité pour être parfaitement lui-même. C'est pour ça qu'elle peut dire avec cette audace, ce choix n'est-il pas digne de l'amour ? Vous voyez, même des philosophes de l'Antiquité avaient compris que l'amour était toujours lié à la pauvreté. Platon, dans le Banquet, le reconnaît. C'est comme un pressentiment de quelque chose qui nous est révélé par le Christ. Jésus, à la croix, est le plus pauvre de tous les pauvres. Il est la pauvreté radicale, la petite Thérèse sur son lit de maladie et où elle meurt. Et la plus pauvre de toutes, elle rejoint la pauvreté du cœur de Marie, du cœur de Jésus. Et c'est cette pauvreté qui lui permet ses désirs fous. Parce que cette pauvreté lui fait comprendre que ce qu'elle vit doit être comme le tremplin pour aller plus loin. Chaque fois qu'elle vit profondément un amour à l'égard de Jésus, se creuse en elle une nouvelle pauvreté, une nouvelle petitesse. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour ? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse. Qu'il s'abaisse jusqu'au néant. Et qu'il transforme en feu ce néant. Alors là, c'est dit de façon plus symbolique, mais c'est dit merveilleusement qu'il transforme en feu ce néant. Vous voyez bien, le terme est l'abîme du point de départ. Et que les deux s'unissent. Ça, c'est la pauvreté. Le néant, c'est la pauvreté du mendiant, de la créature. Nous portons en nous ce néant. Et nous l'aimons pour que Jésus puisse tout faire. Ce néant est source de toute notre petitesse, de notre fragilité, de notre faiblesse. Et ce néant n'est pas du tout quelque chose qui nous paralyse, quelque chose que nous rejetons. Non, nous acceptons cet état de créature, cet état de néant. Et c'est pour nous la manière de nous ouvrir pleinement et totalement à l'amour miséricordieux. Et en nous ouvrant à cet amour miséricordieux, ce néant se transforme en feu. Il reste, et nous restons petites créatures, et nous resterons éternellement petites créatures, et dans le ciel, où l'amour aura tout pris, on verra pour chacun d'entre nous comment ce néant est complètement transformé par l'amour. Et ce sera, je dirais, le caractère particulier de chacun des élus. Et si notre œil est suffisamment pur, si nous regardons avec un regard suffisamment grand le prochain, déjà dès cette terre, à travers l'amour, nous regardons chacun dans sa fragilité, dans ses faiblesses, dans ses blessures. Et nous aimons ses faiblesses, nous aimons ses blessures, puisque par elles, l'amour de Dieu a pu tout transformer. Ô Jésus, je le sais, l'amour ne se paie que par l'amour. Aussi j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Employez les richesses qui rendent injuste à vous faire des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels, la parole de l'Écriture. Voilà, Seigneur, le conseil que tu donnes à tes disciples après leur avoir dit que les enfants de ténèbres sont plus habiles dans leurs affaires que les enfants de lumière. Alors, employez les richesses qui rendent injuste à vous faire des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Une exégèse merveilleuse, hein ? On voit bien ce que Jésus nous dit. Voilà, Seigneur, le conseil que tu nous donnes. Enfant de lumière, j'ai compris que mes désirs d'être tout, d'embrasser toutes les vocations, étaient des richesses qui pourraient bien me rendre injuste. Alors, je m'en suis servi à me faire des amis. Me souvenant de la prière d'Élisée à son père Élie, lorsqu'il osa lui demander son double esprit. Je me suis présenté devant les anges et les saints et je leur ai dit, je suis la plus petite des créatures. Je connais ma misère et ma faiblesse. Et je sais aussi combien les cœurs nobles et généreux aiment à faire du bien. Je vous supplie donc, ô bienheureux habitants du ciel, je vous supplie de m'adopter pour enfant. À vous seul sera la gloire que vous me ferez acquérir et daignez exaucer ma prière. Elle est téméraire, je le sais. Cependant, j'ose vous demander de m'obtenir votre double amour. Ça, c'est l'audace de l'abandon parfait, fondé sur la petitesse, la fragilité, la petitesse de celui qui accepte d'être néant, parce qu'il l'est. Jésus, je ne puis approfondir ma demande. Je craindrai de me trouver accablé sous le poids de mes désirs audacieux. Mon excuse, c'est que je suis un enfant. Les enfants ne réfléchissent pas à la portée de leurs paroles. Voyez la pauvreté jusque dans les désirs, jusque dans la prière, jusque dans les demandes. Les enfants ne réfléchissent pas à la portée de leurs prières. Cependant, leurs parents, lorsqu'ils sont placés sur le trône, qu'ils possèdent d'immenses trésors, n'hésitent pas à contenter les désirs des petits êtres qu'ils chérissent autant qu'eux-mêmes. Pour leur faire plaisir, ils font des folies. Ils vont jusqu'à la faiblesse. Eh bien, moi, je suis l'enfant de l'Église. Et l'Église est reine, puisqu'elle est ton épouse, au divin roi, roi des rois. Ce ne sont pas les richesses et la gloire humaine que réclame le cœur du petit enfant. La gloire, il comprend qu'elle appartient de droit à ses frères, les anges, les saints. Sa gloire à lui sera le reflet de celle qui jaillira du front de sa mère. Ce qu'il demande, c'est l'amour. Voyez, la pauvreté nous permet de découvrir ce qu'il y a de fondamental et de s'habituer à ne rester qu'en face du fondamental. Pas l'extérieur, ce qui apparaît. Non, le fondamental. En termes philosophiques, on dirait la condition sine qua non. C'est très curieux. Ce par quoi tout le reste peut exister, c'est l'amour. Et c'est cet amour qu'elle veut en double part. Ça, c'est l'audace. Et c'est en même temps un sens extraordinairement poussé de la gratuité de l'amour. C'est ça la petite voix. C'est la gratuité de l'amour. Parce que la gratuité de l'amour permet toutes les audaces. Et la petite voix permet toutes les audaces. Elle est plus audacieuse que tous les saints. Et elle rejoint l'audace du cri de Jésus.